cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 25 juin 1992.
Pour ne pas vous laisser trop longtemps dans l'angoisse métaphysique, on a changé le cours. Aujourd'hui, on fait philosophie première, on continue le cours d'hier. Savoir qu'est-ce que c'est que l'un. Parce qu'autrement, il ne reste rien d'infiniment là-dessus. On mettra le cours de théologie naturelle la semaine prochaine. Je n'ai pas pu prévenir les sœurs. Parce que... Il y a un fac, on a un fac qu'on devra envoyer aux sœurs. Ça ne se fait pas encore. Alors... D'abord, convertibilité des rationes. C'est ça qu'il faut se dire. La convertibilité des rationes. Qu'est-ce que c'est que la convertibilité? Ça veut dire que l'attribution de l'un à l'égard d'une réalité à la même extension et la même compréhension que celle de l'être. Il faut prendre ça au niveau de l'universel, de l'attribution, l'universel. L'universel qualifie un concept. Alors, cette universalité est ou univoque ou analogique. L'attribution univoque, c'est lorsque il y a le même nom et la même raison, la même signification. Animal, attribué au chat et attribué à Pierre, c'est le même nom. Pierre est un animal. Le chat est un animal. Même nom et même signification. L'animal est un vivant de vie sensible. Cet animal de vie sensible peut être rationnel ou irrationnel. Le chat est irrationnel. Parce que son instinct n'est pas la raison. Tandis que l'homme, Pierre, normalement, est rationnel. Donc voyez ce que c'est que l'attribution univoque. L'attribution analogique, c'est par exemple quand je prends le beau. Dieu est beau. Ce cheval est beau. Pierre est beau. Ce lac est beau. La beauté, c'est le même nom. Donc l'attribution analogique, le même nom. Mais des significations diverses. La signification de la beauté de Dieu n'est pas la même que la signification de la beauté du cheval. Quand vous pensez à la beauté de Dieu, il ne vous vient pas à l'esprit, si vous êtes normal, la beauté du cheval. Ben, Dieu est un super beau, de la super beauté du cheval. Si vous dites ça, vous dites, t'es un petit peu malade. Chose qui ne va pas. Parce que vous retombez dans l'université. Quand on est fatigué, on retombe dans l'université. Et quand on est très fatigué, on confond. Quand on est très éveillé, on distingue bien l'attribution univoque et l'attribution analogique. Et puis l'attribution équivoque. C'est les trois. Les trois que prend Aristote, que saint Thomas a repris du reste. Équivoque, c'est lorsque c'est Et parce qu'il y a ce quelque chose de commun, on distinguera la ratio pulcri, la raison de beauté, et les différents modes de beauté. C'est pour ça qu'on distingue la raison des différents modes. Tu ne peux pas faire ça pour l'équivoque. Vous voyez, l'équivoque, c'est très simple, c'est l'œil de bœuf. Quand vous regardez un bœuf, vous voyez son œil. On a tous vu un œil de bœuf. Et puis quand vous voyez certaines petites fenêtres particulières, œil de bœuf. Analogie propre. Quand Jésus dit « Je suis la lumière. Est-ce métaphorique? Est-ce une analogie propre? Et tant que vous n'avez pas discerné, ça vous n'avez pas compris. C'est du reste pas si commode à comprendre. Est-ce que la lumière a une signification métaphorique ou une signification d'analogie propre? L'amour, signification métaphorique ou signification propre? Quand il est dit Dieu est amour. Dieu est amoureux. Signification propre ou signification métaphorique? Ainsi de suite, vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est que la convertibilité? C'est lorsque un terme a une signification dans son attribution qui a la même extension et la même compréhension. L'extension, c'est quantitatif. La compréhension, regarde la qualité de la signification. Alors, quand vous dites que l'un est l'être, que la ratio unius et la ratio entis sont convertibles, vous voulez dire que partout où il y a être, il y a un. Et comme l'être est un terme analogique, le terme un est analogique et aura la même diversité que l'être et une unité semblable. Mais ce sont quand même des termes qui ont une signification différente. Et c'est pour ça qu'on doit chercher quelle est la signification propre de la ratio unius. Même convertibilité que le bien, que le vrai. Et certains disent que le beau. Il y a cinq transcendentaux, selon saint Thomas. Je les donne tout de suite, parce que ça, il faut le savoir par cœur. Ça fait partie des choses qu'il faut essayer de comprendre. Et donc, il y a la ratio. Entis. Très difficile à traduire. Je crois que dans toutes les langues, c'est très difficile à traduire. Le prototype, c'est... Vous comprenez? Le ratio, c'est logos. Logos, ontos, entis. Le logos. Alors, le logos, ratio, c'est à la fois le fondement réel de l'intelligibilité radicale, essentielle de ce qui est. Et en même temps, c'est ce que l'intelligence saisit de cette réalité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Mais on ne peut pas dire que ratio égale concept. Je crois qu'il faut dire que ratio égale le fondement du concept. Ratio entis, vous avez donc l'un, le vrai, le bien. Et avant, vous avez res, un vrai bien à liquide. Tous sont convertibles avec la ratio entis. Alors, c'est là que nous regardons. Alors, vous voyez tout de suite le problème. Est convertible avec la ratio entis. C'est au niveau donc de l'intelligibilité de l'un et de l'intelligibilité de l'être. Je ne suis pas au niveau de la réalité existante. Parce que si j'étais était au niveau de la réalité existante, vous verriez bien que puisque l'un n'est pas le multiple, si l'un impliquait l'existence, comme si l'être c'était la réalité existante, je dirais toute réalité est une, par le fait même le multiple n'existe pas, puisque le multiple n'est pas là. Le vrai s'oppose à l'erreur. Le bien s'oppose au mal. À liquide s'oppose à la puissance. Se distingue. Igresse s'oppose à relation ou relatif. Par le fait même, si je prenais confondez ces rationes avec l'aspect du réel. Vous voyez la conséquence. Je devrais dire, n'existe que la substance. Tout ce qui est relatif n'existe pas. Le multiple n'existe pas. L'erreur n'existe pas. Le mal n'existe pas. La puissance n'existe pas. Toutes ces choses ont été affirmées. Spinoza, multiple, on pourrait dire d'une certaine manière, vous voyez, Platon, le vrai, l'erreur, alors là, c'est peut-être plus difficile. Quel est le philosophe qui a dit que toujours, toute connaissance était vraie? Il n'y a pas d'erreur. Le mal n'existe pas, Platon. La puissance n'existe pas. Alors ça, c'est les... Ah, le nom va me revenir. Mais il y a les... qui ont affirmé justement que la puissance comme telle n'existait pas. C'est des philosophes grecs. Alors, on voit très bien comment cette erreur provient de confondre l'intelligibilité et la réalité. Donc, confondre la critique et la philosophie première. Ceci, c'est dans saint Thomas De Veritate, question 1, article 1. Vous l'avez à la bibliothèque traduit. Du moins, j'espère. Avoir lu ça, un très bel article de saint Thomas. Saint Thomas nous donne donc les cinq transcendentaux. Transcendentaux, c'est-à-dire qui dépassent les 10 prédicaments. Ils transcendent l'attribution univoque. Ils transcendent l'attribution des 10 prédicaments. On est au-dessus, on est devant une attribution radicale, absolue. Bon, saint Thomas ne nous dit pas si c'est de la métaphysique ou de la critique. Il nous dit, question veritate, qu'est-ce que c'est que le vrai? Parce que des veritate, qu'est-ce que c'est que le vrai? Il parle de la ratio veri. Il ne nous dit pas. Suarez, d'heureuse mémoire, n'est-ce pas? Suarez, quand il prend les méditations métaphysiques, commence la métaphysique par les transcendentaux. Et toute la scolastique décadente commence la philosophie première par les transcendentaux. Donc on commence la métaphysique par la critique. Puisque en réalité, si je réfléchis bien, les transcendentaux, c'est au niveau de l'attribution, au niveau des rationes, au niveau donc de l'intelligibilité, de ce qui est intelligé. Donc je suis Si vous commencez la métaphysique par la critique, vous n'avez plus le jugement d'existence. Vous avez la mise entre parenthèses du jugement d'existence. C'est impressionnant de regarder le thomisme. Regardez le père de finance, sa métaphysique et les Ratzanès. Au Solchoir, on commençait la métaphysique par les transcendentaux. La néologie du prend de métaphysique avec le père Geiger. Le père Geiger prenait première partie les transcendentaux. Et moi, je commençais après la substance. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, quand on commence par la critique, on ne peut plus avoir le jugement d'existence. On est dans une attitude du vécu. Les Ratzanès, c'est du vécu. Le vécu de l'intelligence, dans ce qu'elle a de fondamental. C'est impressionnant, les transcendentaux. Mais c'est quand même le vécu de l'intelligence, c'est pas la réalité. Donc, vous voyez, là, on touche un problème extrêmement intéressant. Alors, je dis tout de suite ici, maintenant, bien comprendre la différence entre la raison de l'un et l'un. Propriété de ce qui est. La propriété. Qu'est-ce que c'est que la propriété? La propriété, c'est la conclusion.
Possède ce caractère particulier d'être un, d'être une.
s'ajoute, alors que la convertibilité, c'est l'unité. Je ne peux pas dire que la ratio vers la ratio unius s'ajoute à la ratio entis. Si je disais que ça s'ajoutait, ce serait plus convertible. Tandis que la propriété vient s'ajouter. C'est un accident nécessaire, la propriété. C'est un accident nécessaire. Donc je ne suis plus au niveau de la res. Je suis plus au niveau de l'être comme tel. Je suis au niveau d'un être relatif. D'un être qui n'existe qu'en fonction d'un autre. Donc vous voyez bien la différence entre la propriété et la convertibilité. Et puis alors, quand je suis en face de l'un, le nombre, l'un reprend une dignité tout à fait particulière dans l'ordre, de la connaissance mathématique. Parce que dans le domaine de la quantité, l'un apparaît comme mesure, comme principe, comme cause exemplaire. Ah, vous voyez, ces trois aspects différents de l'un, à toutes les confusions que ça a pu produire. Il faut bien saisir ça avec le plus netteté possible. Alors, avant de voir qu'est-ce que c'est que l'un, je vous rappelle, parce que c'est quand même intéressant de voir ça, dans saint Thomas, vous pourrez lire dans l'être la deuxième partie, convertibilité de l'un et de l'être. En commentant, je vous lis ce petit passage, en commentant la métaphysique d'Aristote, saint Thomas souligne, donc c'est page 602, souligne l'importance du problème de l'un et du multiple. Il est nécessaire, c'est saint Thomas qui dit ceci, il est nécessaire d'examiner si tous les êtres se ramènent à quelque chose d'un, ad aliquidunum, ou non. Et saint Thomas ajoute, en suivant le texte d'Aristote, qu'il n'y a pas de différence entre se ramener à l'être ou se ramener à l'un, ni qu'il diverte autrum fiat reductio ad ens vel unum, puisque tout un est d'une certaine manière être, et que tout être est d'une certaine manière un. C'est saint Thomas qui dit ça en commentant Aristote. Commentaire des métaphysiques, donc le livre 10, numéro dans l'édition Marietti, 2199. L'un comme l'être est attribué à tout universellement et communément. Il a une extension semblable à celle de l'être dans l'attribution. L'un ne peut donc être un genre, pas plus que l'être, parce qu'il n'est pas attribué univoquement. De même, du fait qu'ils sont attribués universellement et communément, l'un et l'être ne peuvent être une substance subsistante.
L'être peut être divisé.
Bien, l'être qui n'est pas divisé est un. et dans la somme comparant l'un à l'être, il dira très nettement que l'un ajoute à l'être l'indivision. Ah oui, c'est la très grosse difficulté. Ils sont convertibles, et cependant, l'un ajoute quelque chose. L'indivision. Dans le commentaire des métaphysiques, il souligne que la division que présuppose la ratio unius, selon que l'un est convertible avec l'être, n'est pas la division de la quantité continue qui est présupposée à l'un. Principe du nombre. Vous voyez, l'un est principe du nombre. Cause exemplaire. C'est le nombre le plus parfait, là. C'est le nombre en soi. Cause exemplaire. Mais c'est l'un dans la quantité. Et dans la quantité formalisée par le point de vue mathématique. Parce que le nombre n'existe que dans la pensée du mathématicien. C'est sûr, vous n'avez jamais vu le nombre dans la réalité. Vous avez vu des petits cailloux dans la réalité. Et vous les avez nombrés. Un caillou, deux cailloux, trois cailloux, quatre cailloux. Et le nombre abstrait des cailloux. Vous laissez les cailloux par terre et vous comptez. Et le nombre est dans votre tête. Sont par terre. Les petits cailloux existent et le nombre n'existe que dans votre intelligence. L'être mathématique n'existe formellement que dans l'intelligence du mathématicien. Il a un fondement dans la réalité, mais il est abstrait. Puisque ça commence par le nombre. Les mathématiques ont commencé par le nombre. Chez les pythagoriciens et chez les égyptiens,
s'il n'y a pas la division. Tandis que l'être est donné immédiatement.
Et c'est en ce sens-là que l'un peut être propriété de l'être. Parce qu'il montre que cette réalité est divisée des autres. Et qu'elle est en elle-même indivisible. Indivisée. Pierre est un. Ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Tandis que si vous séparez l'âme et le corps, il est divisé. Alors il n'est plus un. Si vous lui coupez la tête, il n'est plus un. Il est divisé. Il est mutilé. Qui dit mutilé, dit la brisure dans l'ordre de l'un, de l'unité. Alors je vous lis ce passage dans saint Thomas, toujours dans son commentaire des métaphysiques. Je vous dis ce passage. L'un est l'être non divisé, ens non divisum. Donc l'un est identique à l'être non divisé. Or la division appartient à la multitude qui s'oppose à l'un. Il revient donc à celui qui considère l'un de considérer la négation, la privation. Il est privé de division. Il n'y a pas de division. Donc, dans l'intelligibilité de l'un est impliqué quelque chose de plus que dans l'intelligibilité de l'être. Est impliqué la négation de la division. Or, c'est toujours saint Thomas, or la négation est double. Il y a une négation pure et simple par laquelle on dit que ceci n'est pas cela, ou que ceci n'est pas attribué à cela. Hoc non est illi. Il y a une autre négation au niveau du genre, in genere, par laquelle on ne nie pas quelque chose absolument, mais dans les limites d'un certain genre. La négation absolue peut se vérifier aussi bien du non-être qui est apte à supporter une affirmation, quod est natum aberre affirmationem, qu'à l'être qui, normalement, devrait avoir et qui n'a pas. Et la privation est au niveau de l'avoir, et la contradiction est au niveau de l'être. Donc si je confonds contradiction et privation, je confonds être et avoir. Et je confonds être et un. Alors c'est ça qui serait très intéressant dans l'hégélianisme, parce que c'est peut-être ça ce qu'il y a de plus radical. Si on est au-delà de la contradiction, on est au-delà de l'un. Donc l'être ne peut plus se distinguer de l'un. Je peux donc essayer de préciser que quand je parle de la ratio de l'un, qu'est-ce que c'est que l'un ? L'un, c'est l'être qui n'a pas de division. Or, la division la plus radicale, c'est le non-être, opposé à l'être. C'est la contradiction. fait même pas la métaphysique de l'homme. J'étudie la métaphysique pour mieux comprendre l'être à l'homme. Et l'être à l'homme, c'est pas l'être. Ah, vous voyez comment le problème de l'un et du multiple m'oblige à mieux comprendre ce que c'est que la science de l'être en tant qu'être. Ce n'est pas la science de l'homme, ce n'est pas une anthropologie. C'est la connaissance de l'être comme tel. Or, la connaissance de l'être comme tel, c'est quoi? C'est d'abord la saisie des principes. Qu'est-ce qui est premier dans l'être? Qu'est-ce qui est être au sens le plus fort? Le noyau central de l'être. Qu'est-ce que c'est? C'est la substance. Tout être, en tant qu'été, la substance qui est divisible. Et grâce à la substance, je saisis l'un comme propriété de l'être. Parce que l'être est avant tout substance. Donc l'être étant avant tout substance, l'être est bien un dans la substance, par la substance. Voilà la propriété. C'est par la substance que je saisis que l'un est propriété de l'être. Mais il n'y a pas qu'un seul principe de l'être. Il y a l'acte qui est fin de l'être. Et donc, je peux dire que l'être, en tant qu'il est en acte, donc en tant qu'il est fin, l'être, en tant qu'il est en acte, est un. Alors, voyez, là je touche quelque chose de très important. Comme la substance de ce qui est n'est pas l'être en acte de ce qui est. D'un côté, c'est le principe selon la forme. De l'autre côté, c'est le principe selon la fin. La propriété de ce qui est en tant qu'être, vue à partir de la substance, vue à partir de l'acte, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'un est propriété de l'être? Si l'un est propriété de l'être, je dois dire que l'un saisit à partir de la substance, l'un saisit à partir de l'acte. C'est toujours l'être. C'est l'être existant. Donc, je saisis bien la même propriété de l'être. Mais je la saisis selon deux formalités différentes. C'est pour ça qu'hier, je vous disais, la propriété, je reviens à la réalité existante, vue dans la lumière du principe. Ce qui est, en tant qu'il est un dans la mesure où il est substance. Ce qui est, en tant qu'il est un dans la mesure où il est en acte. Alors, ça, je crois que vous pouvez saisir. Là, je saisis bien ce qu'est la métaphysique comme science. Tant que je n'ai pas saisi la propriété de l'être en tant qu'être, je ne saisis pas la métaphysique comme science. C'est pour ça que certains ont dit que la métaphysique n'était pas science pour Aristote, parce qu'ils n'ont pas saisi ce que c'était que là. Ils n'ont pas saisi la propriété. Une connaissance. connaissance scientifique, c'est toujours une connaissance qui est une conclusion des principes. Ce que je considère dans la science métaphysique, c'est l'être en tant qu'être. Je dis l'être en tant qu'être est un propriété. Pourquoi ? Parce que l'être en tant qu'être est substance. Et la substance est individu. Elle est première. Elle est au-delà de toute division. Donc, l'être en tant qu'être, dans la mesure où il est substance, est un. L'acte en tant qu'acte est au-delà de toute division. Il est individu. Donc, l'être en tant qu'être, dans la mesure où il est être en acte, est un. Nous avons bien donc la conclusion, la propriété de l'être en tant qu'être. Alors, je réfléchis. Est-ce que ce sont deux conclusions ou une seule conclusion? Je dis, c'est la même réalité vue sous deux aspects formels distincts. Ce sont donc bien deux conclusions scientifiques. Puisque le point de vue de la conclusion scientifique est toujours formel. Autrement, c'est plus une science. Alors, la propriété de l'être en tant qu'être, vue du point de vue de la substance, quelle distinction de la propriété de l'être en tant qu'être, vue du point de vue de la fin? C'est que la substance montre le fondement radical de l'être. Et donc, l'unité fondamentale de l'être est vue par le point de vue de la substance. La fin, c'est ce qu'il y a d'ultime. Et donc, l'être, la propriété de l'être vue du point de vue de l'acte, est ce qu'il y a d'ultime. Je touche donc là les deux aspects qui sont la même réalité, mais sous deux aspects différents. L'indivision du côté de la forme, l'indivision du côté de la fin. Et je dis que c'est la même réalité, ce qui montre bien que l'être est au-delà de toute analyse, dans la mesure où il est, dans la mesure où il existe. Et cependant, il supporte l'analyse. C'est la différence avec Dieu. Dieu est au-delà de toute analyse, mais ne supporte pas l'analyse. Et je dirais que la première manière d'exister de Dieu, la première qualité de Dieu, c'est qu'il est absolument simple. Je ne dirais pas, il est absolument un, il est absolument simple. Manière d'exister. Parce que par le point de vue de la simplicité, je qualifie sa manière d'être qui est au-dessus de toute composition. Mais je dirais aussi que Dieu est absolument un, séparé des autres et en lui-même individu. Mais voyez, il faut bien comprendre la différence de l'affirmation. Deux affirmations. Dieu est un. Ce qui est en tant qu'il est un. Ceci, conclusion métaphysique. il a la même signification analogiquement, mais dans sa diversité concrète, c'est autre chose. Dieu n'est pas l'être.